أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد. Donc le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie celui pour qui Allah veut le bien lui facilite l'apprentissage de la religion. Donc on met la bonne attention par recherche de l'agrément de Dieu. Donc comment bien faire la prière? Donc on a vu les temps des prières. Donc la prière c'est la meilleure œuvre après la foi en Allah et en son messager. Donc la prière comporte des piliers, c'est-à-dire des actes obligatoires et des actes recommandés sunnah. Les piliers sont les actes de la prière indispensables à la validité de la prière. Quant aux actes surérogatoires, ce sont les actes pour lesquels il y a davantage de récompenses à les accomplir, mais les délaisser n'annulent pas la prière. Nous les accomplissons pour suivre l'exemple du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc les piliers de la prière. Les piliers de la prière sont au nombre de 17. L'intention, c'est un acte du cœur. Ce n'est pas un devoir de la prononcer par la langue. Ainsi, si l'on n'a pas dit par sa langue « j'ai l'intention d'accomplir al-dhuhr » ou « al-asr » par exemple, mais qu'on a fait face à la qibla, on a fait le takbir, on a dit « Allahu Akbar » et on a eu lors du takbir cette intention, comme par exemple « j'ai l'intention d'accomplir l'obligation de al-dhuhr ». La prière est valable, même si on ne l'a pas prononcée en fait. Cependant, si l'intention est présente dans le cœur avant de faire le takbir, mais n'est plus présente lors du takbir, la prière n'est pas valable selon l'imam al-Shafi'i, car selon lui, l'intention doit avoir lieu en même temps que le takbir. Donc on verra que chez Malik c'est valable. Peu de temps avant c'est valable. De même, la prière n'est pas valable si on dit par la langue « j'ai l'intention d'accomplir l'obligation de Al-Dhuhr » et qu'on n'a pas cette intention dans le cœur lors du takbir. Donc ce qui n'est pas valable, c'est pas juste de prononcer, c'est il l'a prononcé mais il l'a pas eu présente dans le cœur. Ce qui est nécessaire pour l'intention, c'est d'avoir la volonté d'accomplir la prière, de préciser la prière qui a une cause particulière, comme la prière de la fête, Al-Eid, ou celle de l'éclipse lunaire, ou bien la prière qui a un temps particulier, comme la prière de Al-Duha, ou Al-Dhuhr, ou Al-Asr. De faire l'intention d'accomplir une obligation dans le cas où il s'agit d'une prière obligatoire, c'est-à-dire que l'on fait l'intention avec le cœur d'accomplir la prière de Al-Dhuhr qui est obligatoire par exemple. Ainsi, si on fait simplement l'intention d'accomplir la prière de Al-Dhuhr sans avoir présent dans le cœur son caractère obligatoire, la prière n'est pas valable chez certains Shafi'i. D'autres ont dit que la prière est valable sans elle. Il est un devoir d'avoir tout cela présent dans le cœur lors du takbir. La simultanéité de l'intention avec le takbir n'est pas obligatoire chez l'imam Malik, que Allah l'a créé. Donc de faire simultanément, en même temps, takbir et l'intention. Par conséquent, si on fait l'intention pour cette prière peu avant le takbir, la prière est valable selon lui, selon l'imam Malik. C'est-à-dire que si on fait l'intention avec son cœur, puis que l'on prononce la formule du takbir de l'entrée rituelle, la prière est valable selon l'imam Malik. La formule du takbir de l'entrée en rituel. Donc la formule du takbir de l'entrée en rituel, c'est-à-dire la formuler de façon à pouvoir s'entendre soi-même, obligatoirement, pour l'ensemble de ces lettres. Allahu Akbar. Donc le takbir n'est pas valable si s'ils ne s'entendent pas de dire toutes ces lettres. Donc là, c'est chez Shafi'i. Donc la formule du takbir de l'entrée en rituel, dire Allahu Akbar lors de l'ouverture de la prière. Donc ça, c'est les piliers oraux qui sont au nombre de 5. La récitation de la Fatiha, le dernier tashahhud, l'invocation en faveur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lors de la dernière position assise. Le salam, parce que le premier tashahhud après 2 rak'ah, c'est en dehors du sobah, c'est recommandé. Et donc c'est le dernier tashahhud qui est obligatoire. Donc le salam, qui est le dernier pilier de la prière, et consiste à dire assalamu alaikum. Cela, il faut les dire de façon à s'entendre soi-même, chez Shafi. Donc, remarque relative à la formulation du takbir de l'entrée en rituel qu'il convient de connaître. Il est une condition de ne pas prolonger la syllabe ba du mot akbar, de manière à ce que le terme devienne akbar. Ceci annule la prière. C'est-à-dire que la prière n'est pas engagée par ce mot-là. Ceci est par ailleurs interdit, car akbar, dans la langue arabe, est le pluriel du mot kabar, qui signifie grand tambour. Si celui qui l'a dit ignorait la signification de ce mot, la prière n'est pas valable. Il commet un péché. Donc, la prière n'est pas valable. Et il commet un péché. Si l'on connaissait la signification, il a dit délibérément, il est devenu non-croyant. Allah nous en préserve. Bien sûr, c'est clair. Alors que l'on y prenne garde lors de l'appel à la prière. Al-Adhan également. Il y en a, ils font pas attention. Ils disent Akbar. Alors c'est Akbar. Certains Shafi'i et Maliki ont mentionné dans un texte que c'est de la mécréance dans le cas où il y a connaissance de la signification et prononciation délibérée. En fait, c'est chez tous les savants, c'est ainsi. Mais certains, ils l'ont cité explicitement même. Ça rentre dans la règle de la mécréance. C'est comme dire que Dieu est des grands tambours. Ça, c'est de la mécréance chez tous les savants. Il est une condition de ne pas prolonger la première lettre du mot Allah. Par conséquent, si quelqu'un dit Allahu Akbar, sa prière n'est pas engagée et c'est interdit, car cela signifie l'interrogation. C'est comme s'il avait dit, est-ce que Allah sait plus que tout autre ou pas, ou est-ce que Allah est plus puissant que tout autre ou pas? Et ceci de la mécréance. Il est une condition de ne pas ajouter de wa avant le mot Allah. De sorte que si l'on dit Wallahu Akbar, la prière n'est pas valable. De même si on ajoute un wa entre le mot Allah et le mot Akbar. En disant Allahu Akbar, la prière n'est pas valable non plus. De même, si on change le A de Akbar par un wa, la prière n'est pas valable comme en disant Allahu Akbar. Donc voilà, faire attention à cela. Information utile, si le ma'moum, celui qui prie dirigé, a été sujet aux mauvaises suggestions venant à son esprit. Donc on appelle waswas. À propos de la formulation du takbir, de l'entrée en rituel, au point qu'il cause une gêne pour les autres ma'moum. Moumine, c'est interdit. Il va déranger. Et il a du waswas, il va dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il en est de même pour celui qui s'assoit pour parler près de quelqu'un qui accomplit la prière. Il le dérange. De même, il est interdit de réciter à voix, haute voix de sorte qu'il perturbe celui qui accomplit la prière à ses côtés. 3. La position debout. Troisième pilier, la position debout, dont les prières obligatoires pour celui qui le peut. C'est-à-dire que le fait de prier debout, dont la prière obligatoire fait partie des piliers de la prière. Même si c'est une prière que l'on fait à la suite d'un vœu, nadhr, ou si c'est une prière funéraire. Il est donc une condition pour sa validité aussi bien pour le jeune enfant que pour l'adulte de la faire debout. Donc ce n'est pas valable de faire assis comme certains et dans le voyage, ils sont assis ou dehors. Ce n'est pas valable si il peut se mettre debout. Même dans l'avion, on fait, ce n'est pas valable de le faire assis. Pour les prières, 5 prières obligatoires. C'est un grand, grand devoir. On le fait assis que si on a une excuse comme on peut pas. On peut pas physiquement se mettre debout. Il en est de même pour la prière répétée. Et c'est celle qui est répétée après avoir été accomplie correctement suite à une deuxième assemblée. D'autre part, la condition de la position debout est réalisée en prenant appui sur ses deux pieds et en tenant sa colonne vertébrale verticale. Il n'est pas un devoir de tenir le cou vertical. Il est plutôt recommandé de pencher légèrement la tête en avant. Celui qui ne peut se tenir debout qu'à l'aide d'une canne doit en utiliser une. Donc, si l'on est incapable de se tenir debout par soi-même ou en se faisant aider, c'est-à-dire que cela entraîne une grande difficulté insupportable, habituellement, la prière est valable assis. Si l'on est incapable de se tenir assis, il est un devoir d'accomplir la prière obligatoire allongée sur le côté. Le droit ou le gauche, toutefois, il est préférable de se mettre prioritairement sur le côté droit. Mais si l'on est incapable de, on se met sur le côté gauche. Si on n'a pas pu faire la prière sur un côté, il est un devoir de la faire coucher sur le dos et de relever la tête de façon obligatoire, même un peu, pour orienter sa tête vers la Qibla. Si l'on est incapable de faire tout cela, par exemple, si on ne peut que se tenir couché face au sol, on fait la prière dans cette position et on lève la tête si on le peut. Sinon, on fait la prière avec ses paupières. Donc, on revient pour si il est dans l'incapacité et puis qu'il fait allonger sur le dos et relève la tête pour même un peu pour se diriger vers la Qibla, s'il peut pas, il oriente la plante des pieds vers la Qibla. Si l'on est incapable de faire tout cela, par exemple, si l'on ne peut que se tenir couché face au sol, on fait la prière dans cette position et on lève la tête si on le peut. Sinon, on fait la prière avec ses paupières. C'est-à-dire qu'on bouge ses paupières avec l'intention de faire l'inclination, puis on les bouge avec l'intention de faire la prosternation, en les abaissant de façon plus marquée pour la prosternation. Si l'on est incapable de tout cela, on fait les piliers gestuels par le cœur. Quant aux piliers oraux, on les récite avec la langue. Si sa langue est immobilisée aussi, on fait avec le cœur. Donc, comme on l'a dit, si tout ce qu'il peut faire, il le fait, même partiellement. Si par exemple, il peut commencer debout, il commence debout, mais il ne peut pas finir Il s'assoit. Donc, celui qui accomplit la prière assis fait son inclination de manière à ce que sa tête soit au niveau de l'espace qui est au-dessus de ses genoux. Voilà, celui qui est assis, ben, il avance la tête vers au-dessus des genoux. C'est ça l'inclination. Et pour la prosternation, il fait encore plus. La meilleure façon est de l'avancer au niveau de l'endroit de sa prosternation. Il est recommandé après l'entrée en rituel, taharrum, c'est-à-dire après la formulation du takbir, de l'entrée en rituel, de mettre ses mains sous la poitrine et au-dessus du nombril. On met la droite sur la gauche et on les met au milieu, sous la poitrine, au-dessus du nombril. Donc, le quatrième pilier, la récitation de la Fatiha. Conformément à la parole du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Ce qui signifie, il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas récité la Fatiha. Donc, ça veut dire correctement. Rapporté par Al-Bukhari. Elle est de cette ayah, cette verset. Et la basmala, bismillahirrahmanirrahim, en fait partie. Contrairement aux malikites, ils disent que ce n'est pas une condition de dire bismillahirrahmanirrahim. Mais ils disent pas que c'est interdit de la réciter. La récitation de la Fatiha n'est donc pas valable sans la basmala. Chez Shafi'i, donc, c'est une condition de réciter la basmala pour la Fatiha. Il est aussi un devoir de réciter ces 14 lettres doublées, Shadda. Si l'on délaisse ne serait-ce que l'une d'elles, la récitation de la Fatiha n'est pas valable. Comme si l'on dit Iyaka, 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 au lieu de dire Iyaka, sans doubler le ya. Il est un devoir de réciter les ayahs sans interruption. Donc, il est un devoir de réciter les ayahs sans interruption qui excède le temps de respiration, donc habituel, si on délaisse cette condition en faisant, par exemple, un long silence pendant la récitation, il est un devoir de revenir au début de la récitation de la Fatiha. L'interruption n'est pas préjudiciable si l'on est gagné par l'éternuement, la toux, le bâillement ou ce qui est semblable, même si cela se prolonge. C'est-à-dire après que ça finit, l'empêchement, il poursuit sans nécessité de reprendre au début. De même, il n'est pas nuisible que le ma'moum dise Amin après l'arrestation de son imam. L'arrestation de la Fatiha n'est pas interrompue par cette parole. Il est aussi un devoir d'articuler les lettres sur leur point de prononciation. Donc, il est un devoir d'articuler les lettres sur leur point de prononciation. Celui qui délaisse cette condition par manquement, comme s'il change le zel en zay ou le sad en sin ou le ta en ta, sa récitation n'est pas valable. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Donc, il n'est pas une condition de connaître la signification de la Fatiha pour la validité de la prière. Mais il est une condition de bien la réciter, même en lisant pendant la prière. Donc on répète, il faut les prolongations de base, comme Iyaka, c'est pas Iyaka. Iyaka avec la shadda aussi, Iyaka, et Iyaka et Walamdhallin. Donc le minimum c'est de faire deux temps, c'est valable s'il fait deux temps, mais le mieux dans les règles de tajwid ici c'est six temps, parce qu'il y a un sukun dans le lam avec shadda, parce que le shadda c'est sukun et haraka. L'inclination ar-ruku' elle a lieu en se courbant jusqu'à ce que les paumes des mains puissent atteindre les genoux. Les paumes constituent le plat des mains, doigts non compris. Il est une condition que l'inclination soit réalisée sans beaucoup fléchir chez les genoux. Donc ce n'est pas une condition de toucher, mais de sorte qu'ils puissent atteindre. Donc fléchir légèrement n'est pas préjudiciable, comme ils font les personnes âgées ou des gens qui ne sont pas souples forcément. Mais le fait de trop fléchir, comme s'accroupir en fait, là c'est pas valable. La meilleure manière de réaliser la position de l'inclination, rukua, c'est de se tenir le dos et le cou tendu comme une planche en tenant les jambes et les cuisses et en prenant les genoux avec les deux paumes, en écartant les genoux d'un empan et en écartant moyennement les doigts. Ceci concerne l'homme. Quant à la femme, il lui est recommandé de se rapprocher. Elle n'écarte pas les pieds. Elle les rapproche. De plus, pour que la manière d'accomplir l'inclination soit complète, on dit Subhana Rabbi al-Azim, qui signifie il est exempt d'imperfection, mon Seigneur, lui qui est plus puissant et c'est plus que tout autre. Subhana Rabbi al-Azim, trois fois. La quiétude, at-tuma'nina, dans ce pilier, le temps de pouvoir dire Subhanallah. Il reste un temps. Il s'agit de l'immobilisation simultanée de tous les os à leur place en une seule fois, c'est-à-dire immobiliser les membres simultanément. Le redressement à l'i'tidal, qui consiste à se relever en position droite après l'inclination, c'est le retour de celui qui était en inclination à la position antérieure à l'inclination, qui prit debout autrement. Ceci est réalisé en se relevant en position debout si on faisait la prière debout et en se remettant assis si on faisait la prière assis. La quiétude dans ce pilier, la prosternation, à soujoud, par deux fois, en posant le front sur l'emplacement de sa prière, en posant aussi une partie des genoux. Donc la prosternation à soujoud, par deux fois, en posant le front sur l'emplacement de sa prière, en posant aussi une partie des genoux, une partie du plat des mains et du plat des orteils, et ceci conformément à sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, umirtu an asuda ala sab'ati a'dham, al-jabhata wal-yadayn wal-rukbatayn wal-qadamayn. Ce qui signifie, j'ai reçu l'ordre de me prosterner sur sept parties, le front, les deux mains, les deux genoux et les extrémités des pieds. Parmi ces conditions, appuyer le front de sorte qu'une cotonnade serait tassée si l'on se prosternait dessus et que les traces du tassement apparaîtraient sur la main. Abaisser la tête de sorte que la partie inférieure du corps soit plus élevée que la partie supérieure. l'inquiétude, voilà, qu'on a, on se, yani, il va pas se prosterner sur par exemple, une chaise de telle sorte qu'il est toujours relevé en haut. Si il peut faire, il peut faire normalement, quoi. Ouais, c'est comme en fait du coton, en fait. Ouais, ça veut dire que en fait qu'il laisse du poids, quoi. C'est-à-dire c'est pas il se retient avec les mains, il effleure à peine avec il pose le poids de sa tête normalement, quoi. Ah non, non, c'est pas une condition de pousser. Juste tu lâches la tête, ça y est, ça y a du poids. C'est juste tu mets la tête, elle a du poids, la tête, c'est tout. Il n'y a rien à appuyer. Mais si tu retiens et juste tu effleures, tout est retenu. Ça fait aucun appui là, non. La quiétude dans la prosternation. La position assise entre les deux prosternations. La quiétude dans la position assise entre les deux prosternations. Donc, il se dirige vers le Qibla, donc par sa poitrine dans la position assise. Et par la majeure partie du corps en inclination et en prosternation, comme on a dit. La dernière position assise pour le dernier tashahhud est ce qui vient après le tashahhud, c'est-à-dire l'invocation en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. As-salatu ala nabi. Puis le salam, le sali, le salut rituel. Donc on peut s'asseoir dans la position assise de plusieurs manières en fait. On peut s'asseoir du moment qu'on met la poitrine face à la qibla. On peut s'asseoir sur les talons ou sur les pieds. Chez Chef, il est recommandé de s'asseoir sur le cheville gauche. On suit gauche et on laisse la pied droit comme dans il était dans la prosternation, c'est-à-dire les orteils contre le sol. Et à la fin, pour la dernière position assise, on s'assoit sur en fait quasiment la partie ce qu'on appelle l'iftirash. On va s'asseoir sur la hanche gauche et on fait passer et on garde toujours le pied droit face c'est-à-dire les orteils contre le sol et on va passer son pied gauche en dessous du pied droit et on va s'asseoir donc sur la hanche et on garde la poitrine face à la qibla. Ça c'est pour donc bien sûr les hommes. Donc la dernière position assise pour le dernier tashahhud est ce qui vient après le tashahhud, c'est-à-dire l'invocation en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-salatu ala nabi, puis le salam, le salut rituel. Le dernier tashahhud, il y a un minimum, une forme complète. Le minimum du tashahhud sans lequel la prière n'est pas valable est le suivant: at-tahiyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahi s-salihin. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كنت تشهد كومبليس التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. Ce qui signifie les salutations, les œuvres qui prospèrent dans le bien, les prières et les œuvres méritoires appartiennent à Allah. Que le salut de tout mal te soit accordé au prophète ainsi que la miséricorde de Allah et ses bénédictions que le salut nous soit accordé ainsi qu'aux esclaves de Allah vertueux. Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah et je témoigne que Muhammad est le messager de Allah. Donc il y a la version de l'imam Malik aussi. Donc on va voir en bas. Donc avertissement, il s'est propagé chez certaines personnes que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé au cours de son ascension à l'endroit où il a entendu la parole de Allah tabaraka wa ta'ala. Donc bien sûr, la parole de Dieu n'est pas des sons, n'est pas des lettres, ne ressemble pas à la parole des créatures, et n'a pas de début, n'a pas de fin. Donc, ils prétendent qu'il lui aurait dit At-tahiyyatu lillah. Et Allah aurait dit. Donc, ils prétendent que le prophète aurait dit At-tahiyyatu lillah et que Allah aurait dit As-salamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Cela n'est pas vrai car cette forme du tashahhud n'a pas été rendue obligatoire cette nuit-là. Toutefois, certains menteurs rapportent cette histoire qui a connu une grande propagation, bien qu'elle soit attribuée mensongèrement à Allah. Il est donc un devoir de l'expliquer aux gens. Bien sûr, comme on l'a dit, le prophète, il a vu Dieu avec son cœur, et Dieu existe sans endroit et sans comment, il ne dépend pas du temps. Et il a entendu la parole de Dieu, comme Moussa, il a entendu la parole de Dieu. Dieu a levé le voile abstrait qui empêche d'entendre la parole de Dieu, et le prophète, il a compris de la parole de Dieu. Donc le prophète et sa compréhension sont créés. Mais la parole de Dieu n'est pas créée, n'a pas de début, n'a pas de fin, ne change pas, ne ressemble pas à la parole des créatures. Bien sûr, attribuer à Dieu les lettres, le son, le changement, la localisation, c'est du shirk, c'est de la mécréance. Et celui qui croit ça, il n'est pas musulman, et il doit délaisser cette mauvaise croyance et dire les deux attestations de foi pour revenir à l'islam. L'invocation en faveur du prophète. Donc l'invocation en faveur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, as-salatu ala nabi, dont le minimum est Allahumma salli ala Muhammad. Donc on sait, on ne prolonge pas le lem, donc salli, double seulement. Sinon, c'est interdit car ça devient conjugué au féminin. Donc on dit Allahumma salli ala Muhammad. Ce qui signifie oh Allah honore et élève davantage en degré Muhammad. La façon la plus complète est de réciter toute l'invocation ibrahimienne. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Et bien sûr, on peut dire Sayyidina Muhammad, contrairement à ce que disent les extrémistes, donc il n'y a pas un hadith qui interdit cela. Notre maître Muhammad. Le salam, dont le minimum est de dire Assalamu alaikum. Parmi ces conditions, on prononce l'article défini. Assalam, assalamu alaikum. Ainsi, il ne suffit pas de dire salam alaikum. Il y a des gens, ils sont très pressés, ils disent salam alaikum. Quant au salam complet, il est réalisé en ajoutant wa rahmatullah. D'autres ont choisi d'ajouter wa barakatuh. Cela a été rapporté dans les sunan de Abu Daoud, dans le premier salam. Donc, tourner à droite pour le premier est recommandé, et puis de rajouter un deuxième, c'est recommandé, et de tourner à gauche pour le deuxième est recommandé. Tout ça, c'est recommandé. Donc, s'il dit Assalamu alaikum juste devant, c'est valable. Donc, la manière, c'est Assalamu alaikum. Il commence et il tourne en même temps, il finit, il commence devant, il finit à droite. Et puis, il commence devant, il finit à gauche. Donc remarque, il est valable aussi dans le tashahhud de réciter l'autre version rapportée du compagnon Omar ibn al-Khattab. Livre Al-Muwatta de l'imam Malik, page 81, chapitre du tashahhud, il a dit: Yahya m'a transmis d'après Malik, d'après Ibn Shihab, d'après Urwa ibn Zubayr, d'après Abdurrahman ibn Abdilqari, qu'il a entendu Omar ibn Khattab alors qu'il était sur le mimbar, cher. Il enseignait aux gens à Tashahud, il disait, dites, At-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu as-salawatu lillah, as-salamu alayka ayyuhan-nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, as-salamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Donc l'ordre aussi, c'est-à-dire effectuer les piliers dans l'ordre comme ils viennent d'être cités. Si on fait exprès d'abandonner l'ordre, comme par exemple si on se prosterne avant de faire l'inclination, la prière est annulée selon l'unanimité en raison de son manque de sérieux. Cela concerne celui qui a abandonné l'ordre délibérément. Si on le fait par inattention, alors qu'on revienne au pilier omis pour l'accomplir, sauf si on se trouve dans le pilier correspondant de la raka'a suivante, ou plus avancé encore, la raka'a du pilier omis est complétée par ce pilier, on ne prend pas en compte ce qui a été fait par inattention, après le pilier omis jusqu'au pilier correspondant de la raka'a suivante. Si quelqu'un a abandonné l'ordre par inattention, puis s'est rappelé de ce qu'il a omis, donc soit il s'en rappelle avant d'avoir atteint le pilier correspondant de la raka'a suivante. Soit il s'en rappelle alors qu'il a atteint le pilier correspondant de la raka'a suivante. Soit il s'en rappelle alors qu'il a dépassé le pilier correspondant de la raka'a suivante. Donc le détail à propos de ces jugements est le suivant. Si on s'en rappelle avant d'avoir atteint le pilier correspondant au pilier omis, ce qu'on aura fait après le pilier omis ne sera pas pris en compte, parce que cela n'a pas été fait à sa place, de sorte qu'on doit revenir immédiatement au pilier omis pour conserver l'ordre. Par exemple, dans le cas où on était dans la première raka'a, on a oublié l'inclination et on s'est prosterné directement après avoir fini la récitation de la Fatiha. Puis on s'est rappelé dans la prosternation qu'on a délaissé l'inclination. On se relève alors immédiatement et obligatoirement en position debout. Il n'est pas suffisant de se relever en position d'inclination, parce que l'inclination commence par le haut. Puis, on accomplit l'inclination, on poursuit la prière. Si on s'en rappelle alors qu'on a déjà atteint le pilier correspondant au pilier omis dans la raka'a suivante, ce qu'on est en train de faire complète la raka'a et on ne prend pas en compte ce qui a été fait entre le pilier omis et ce qu'on est en train de faire. Par exemple, dans le cas où on a oublié l'inclination de la première raka'a, puis on s'en est rappelé dans l'inclination de la deuxième raka'a, on reste dans cette inclination, considérant que c'est la première raka'a, et on poursuit la prière. Si on s'en rappelle alors qu'on a dépassé le pilier correspondant au pilier omis, là, c'est presque pareil, la raka'a a été complétée par ce qu'on vient de faire et on ne prend pas en compte ce qui a été fait entre les deux. Par exemple, dans le cas où on a oublié l'inclination de la première raka'a, puis on s'est rappelé dans la prosternation de la troisième et qu'on avait oublié donc on s'est rappelé dans la prosternation de la troisième qu'on avait oublié l'inclination de la première raka'a. On reste dans cette prosternation, on poursuit la prière en considérant que cette raka'a est la deuxième, car ce qui a été fait après le pilier omis jusqu'au pilier correspondant suivant n'est pas pris en compte. Par conséquent, ce qui a été fait entre l'inclination omise et la première raka'a, l'inclination omise de la première raka'a et l'inclination de la deuxième, donc n'est pas pris en compte. Donc les deuxième et troisième cas, c'est presque pareil. Ce jugement concerne celui qui n'est pas ma'moum, c'est-à-dire il prie tout seul. Le ma'moum accomplit une raka'a après le salam de son imam. Remarque importante, le fait de douter dans cette question est considéré comme le fait de se rappeler. De sorte que si on s'incline puis on doute d'avoir récité la Fatiha ou pas, ou bien on se prosterne, puis on doute de s'être incliné et remis debout ou pas, on doit immédiatement se relever en position debout, et il n'est pas suffisant de se relever en position à l'inclination. Quant à celui qui est encore debout, il doute d'avoir récité la Fatiha ou non, dans cette même rak'a, il ne lui est pas un devoir de la réciter immédiatement, car il n'a pas encore quitté la position propre à cette récitation. Donc, remarque sur l'explication des termes de la prière. Allahu Akbar signifie Allah est plus puissant et sait plus que tout autre. Et non pas qu'il est plus grand par les dimensions, car Allah est exempt des dimensions. Il n'est pas un corps. Il n'a pas de semblable, il n'a pas d'égal. Il est valable de l'expliquer par l'expression Kabir, car la parole Allahu Akbar est synonyme à Allahu Kabir. Subhanallah signifie qu'Allah est exempt de toute imperfection et de tout défaut, tels que l'incapacité, la faiblesse, l'ignorance, la peur, le changement, la position assise, l'établissement, ce qui est de cet ordre des caractéristiques des humains. Dieu n'est pas concerné par les attributs des créatures. Quoi que tu puisses imaginer, Dieu en est différent. Subhana Rabbi al-A'la, cela signifie, j'exempte de toute imperfection mon Seigneur qui est plus élevé en degré que tous qui ont un degré. D'une élévation en degré, non pas d'une élévation par la localisation et l'endroit et la distance. C'est-à-dire, il est imminent. Il est le Tout-Puissant, celui qui sait toute chose. Donc pour finir, on rappelle aussi les conditions pour être récompensé dans la prière, pour l'acceptation de la prière par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire pour avoir des récompenses. Il est une condition en plus de ce qui précède que l'esclave de Allah vise par sa prière l'agrément de Allah lui seul. Et pas l'éloge des gens, que sa nourriture, ses vêtements et son lieu de prière soient licites. Qu'il n'y ait pas dans son ventre ce qui est interdit, en fait, qui est là où il prie, c'est pas quelque chose qu'il a usurpé, où il reste sans le consentement du propriétaire. Et qui n'a pas de vêtements illicites comme quelque chose qu'il a volé. Et qu'il y ait dans le cœur le khushur, c'est-à-dire, c'est à avoir dans le cœur la crainte de Allah ou bien l'amour et la glorification de Allah, ne serait-ce qu'un instant dans la prière. Et plus il a la crainte, plus il a des récompenses. Si cela n'est pas réalisé, la prière reste valable mais sans récompense. Et on rappelle aussi que la bonne intention, elle seule, ne suffit pas pour la validité de l'acte d'adoration. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a appris que l'intention à elle seule n'est pas suffisante. Il faut que l'acte et l'intention soient conformes à la religion. Le hadith rapporté par Tirmidhi ainsi que d'autres en est la preuve. Donc dans ce hadith, le sens de ce hadith est que le messager est entré dans la mosquée, puis un homme est entré et a effectué la prière. Ensuite, cet homme est venu et a passé le salam au prophète. Le prophète a répondu au salam et il lui a dit « Irja, fa salli fa innaka lam tusalli » ce qui signifie « retourne et prie, car tu n'as pas prié ». L'homme est retourné et a prié de la même manière que la première fois. Puis il est revenu et a de nouveau passé le salam au prophète. Le prophète a répondu au salam, puis a dit, Irja fa salli fa innaka lam tusalli. Ce qui signifie, retourne et prie, car tu n'as pas prié. Il n'a pas dit, ok, tu feras mieux la prochaine fois. Ainsi, l'homme est retourné et prié. Cette scène s'est reproduite 3 fois. L'homme alors dit, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je ne connais pas autre que cela, apprends-moi. Le messager lui a alors appris comment prier. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Rubba qa'im laysa lahu min qiyam illa as-sahar wa rubba as-sa'im laysa lahu min siyam illa al-ju' wa al-'atash. Ce qui signifie: il se peut que quelqu'un pense faire des prières surrogatoires de nuit, il ne gagne de cela que la veille, Il se peut que quelqu'un pense faire le jeûne, il ne gagne de cela que la faim et la soif. Rapporté par Ibn Hibban, c'est-à-dire que cette personne a fait des actes qui n'étaient pas valables du fait qu'il manque des conditions de validité ou des piliers, ou elle a fait des actes qui ne remplissent pas les conditions pour être récompensés. On apprend de ces hadiths qu'il ne suffit pas d'avoir la bonne intention, de vouloir faire le bien pour qu'un acte d'adoration soit valable. En effet, il faut que l'acte soit conforme à l'enseignement du prophète. Il est donc primordial d'apprendre les lois de la religion par transmission orale auprès des gens ayant la connaissance et dignes de confiance. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد